Alors oui, Jésus guérit, mais on voit que parfois ça peut prendre du temps. C'est pas instantané, c'est plutôt même rare quand c'est instantané, même si c'est vrai que ça arrive aussi. Jésus guérit des choses dans notre corps, peut guérir dans notre âme, peut guérir aussi dans nos relations, peut guérir à différents niveaux finalement de notre personnalité. Peut aussi nous délivrer de la peur, mais ça c'est aussi des combats, d'apprendre aussi à refuser, d'entrer aussi dans l'inquiétude ou comme il a dit, voilà, maintenant pour la suite, Seigneur, c'est toi qui as tout entre tes mains. Et c'est vrai que la semaine passée, on a vu, comme il a aussi rappelé Reto, que Francesco nous a rappelé que Dieu, il est celui qui guérit. En hébreu, c'est encore plus court, c'est Jéhovah Rapha. C'est Dieu et le verbe guérir. Je vous l'ai mis dans d'autres langues, peut-être ça vous rejoint pour ceux qui parlent anglais, allemand. Dieu, il est celui qui nous guérit. Et ça, c'est tellement fort de se rappeler que oui, il est là chaque jour avec nous, il est et il veut nous guérir. Et c'est, on peut compter sur lui, on peut compter sur son amour, sa compassion, sur cette assurance qu'il est ce Dieu qui guérit. J'écoutais cette semaine un témoignage d'une sœur catholique et qui a été à Lourdes, qui a été guérie. C'était assez particulier parce qu'elle était, quand elle était jeune, elle a voulu faire infirmière et puis elle a porté beaucoup de gens. Et elle a tout abîmé son dos, malheureusement. Après, avec quelques années, elle a dû être opérée une fois, deux fois, trois fois. Puis plus tard, elle a eu la morphine, elle a eu toutes choses, toutes sortes d'aides. Mais finalement, elle continuait avec le peu qui lui restait d'énergie à servir Dieu. Elle avait ce cœur pour continuer de vivre sa relation avec Dieu dans la joie, la reconnaissance, en sachant que voilà, elle était très, très limitée. Puis une fois, un médecin il lui a dit, mais pourquoi tu n'irais pas à Lourdes? Puis elle avait déjà été, mais pas pour elle. Puis elle a été là-bas. C'est vrai que Dieu peut guérir à différents endroits. Elle a fait tout le parcours, puisqu'il propose là tout un peu une sorte de liturgie. Et je crois j'ai vu, il y a aussi des endroits où ils peuvent entrer dans un bassin et prendre ce temps. Puis elle disait, mais en fait, moi, je n'ai même pas prié pour la guérison. J'ai prié, Seigneur, mais purifie-moi. Seigneur, purifie-moi. Puis il y avait tellement de malades là-bas, alors j'ai prié pour plein de malades autour de moi. Et elle était vraiment dans cette communion avec Dieu. Puis on sentait que c'était presque, pour elle, c'était le plus important, c'est d'être avec Dieu, en lien avec Dieu. Puis elle est rentrée. Puis il n'y a rien qui a changé vraiment. Elle est rentrée chez elle. Et 3 jours plus tard, elle se retrouve dans sa communauté et avec les autres sœurs. Elle est dans un temps d'adoration. Et là, elle se rappelle tous les souvenirs de tout ce qu'elle a vécu, de tous ces moments de communion forts avec Dieu. Et à ce moment-là, 3 jours après, alors qu'elle est dans la présence de Dieu, elle sent une chaleur, elle se sent mieux, elle sent un bien-être venir dans son corps et elle ne comprend pas ce qui lui arrive, ce qui se passe. Puis elle commence à enlever, je crois qu'elle avait une attelle, un corset, un neurostimulateur, elle avait plein de choses. Elle enlève tout, puis elle ne comprend pas, quoi. Elle est guérie. Elle appelle une sœur et la sœur, elle la voit marcher comme ça, sans aide, sans rien. Et elle pleure de joie tellement elle est touchée de voir. Elle dit, elle arrête même la morphine alors que ça faisait 14 ans qu'elle en prenait. On ne doit jamais normalement arrêter la morphine comme ça. Puis moi, ça m'a tellement touchée de me dire, mais voilà, Dieu, il fait des choses mais tellement extraordinaires que souvent qui nous surprennent, quoi. Elle a été à un endroit, c'est pas là qu'elle a reçu, mais 3 jours après, dans l'intimité, dans la présence de Dieu, Dieu est venu la visiter par cette grâce, par son amour. Alors c'est vrai. Des fois, elle a vécu longtemps dans l'attente. Enfin, elle a vécu longtemps avec sa maladie. Et puis, on ne sait pas toujours, c'est vrai, quand Dieu nous rejoint, quand Dieu guérit. Mais je sais aussi que Dieu il peut guérir justement aussi nos relations, ou parfois, ça peut être des troubles psychiques, ça peut être différentes choses. Des fois, on attend, on espère, on souhaite, et ce n'est pas toujours là que ça vient. Et en même temps, parfois, il y a aussi tous les manques affectifs, tout ce qu'on n'a pas reçu quand on était enfant. Moi, pendant des années, je me suis dit, mais Seigneur, quand est-ce que un jour je vais pouvoir recevoir cette guérison de tout ce que je sens qu'au fond de moi, qui n'est pas là, qui manque. Et puis petit à petit, je vois que Dieu il a mis aussi des gens autour de moi, des personnes qui m'ont encouragée, qui m'ont bénie, qui m'ont guérie, qui ont prié pour moi. Puis maintenant, je me dis, mais waouh, Dieu, tu prends le soin de chacun d'entre nous. Et ce n'est pas en une fois, et des fois, c'est même plusieurs personnes. Et puis encore cette semaine, voilà, David, il était là, et il m'aidait aussi pour différents défis de cette semaine. Puis il disait, Myriam, je crois que ça va aller. Tu peux le faire, tu as les épaules assez larges, toi tu crois. Et puis vraiment, c'était aussi tellement touchant de voir que même entre collègues, Dieu il nous permet de nous sentir encouragés. Ce matin, j'avais envie de m'arrêter avec vous sur un texte de Jean 5. Jésus rencontre un homme qui est malade depuis 38 ans. 38 ans de souffrance, 38 ans de maladie. La maladie, elle a fait quand même longtemps partie de sa vie. Jésus y monte à Jérusalem, il est près de la porte des brebis. Il y avait une fête. À Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. On pourrait traduire en anglais House of Mercy, la maison de la compassion, la maison de la guérison, la maison du pardon, de la grâce. Et elle a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, que ce soit des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Puis dans certains textes, c'est rajouté, mais pas dans tous les textes, ils attendaient le mouvement de l'eau car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit, ton grabat, et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « Mais c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Mais celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Mais qui est l'homme qui t'a dit, « Prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pèche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Ce malade, il ne demande rien, il est passif, il est là, il est couché. En fait, il regarde l'eau, il regarde la piscine, lui. Il espère qu'il y a à nouveau peut-être l'eau qui va bouger. Il est là couché avec tous les malades. Est-ce qu'il peut encore être guéri? Est-ce qu'il continue encore à prier Dieu? Est-ce qu'il a sûrement déjà prié longtemps? Et pour l'instant, ben, il est là. Et en même temps, je me suis dit, il y a encore de l'espérance dans son cœur, parce qu'il est au bord de cet endroit. Mais est-ce qu'il espère encore en Dieu? Puis je me suis dit, mais pourquoi il n'y avait pas des prophètes ou des gens de la synagogue? C'est vrai que dans le Nouveau Testament, on ne voit jamais en fait, les pharisiens, les prêtres prier pour les malades. Peut-être que, comme nous disait aussi Jean-François, peut-être qu'à cette époque-là, ils avaient relégué ça au temps de l'Ancien Testament, où c'était peut-être Élie, Élisée, certains prophètes qui apportaient la guérison. Mais en tout cas pas en allant à la synagogue, et surtout pas un jour de sabbat, on pouvait espérer une guérison. Cet homme, il est là devant cette piscine, mais il sait que c'est difficile pour être le premier, parce qu'il arrive peut-être à se déplacer en tirant un peu sur ses bras. Mais à chaque fois qu'il a essayé, à chaque fois, bah, quelqu'un d'autre est arrivé avant lui. Ah, moi, je me suis dit, mais quand même, c'est terrible. Il doit être vraiment frustré, découragé, triste. Il doit quand même aussi se sentir seul, même abandonné, parce qu'il y a tous ces autres malades, mais il n'y a personne qui est là pour l'aider à se mettre à l'eau. Il a peut-être passé, je ne sais pas moi, 30 ans au bord de cette piscine, à regarder l'eau, à l'observer, à voir si elle allait bouger. Il y a peut-être même des dizaines de personnes pendant toutes ces années qui ont été guéries devant lui. Mais lui, il est là, il n'a pas quitté l'endroit. Peut-être qu'il se dit, mais moi, si je ne viens pas demain, c'est peut-être demain que l'eau va bouger. Il n'est pas été dans une autre ville, il reste là. J'imagine qu'il fait l'aumône et que peut-être il y a quand même au moins quelques personnes qui lui donnent à manger ou qui va se coucher peut-être ailleurs, voire qu'il reste là. Mais quelle est l'ambiance qui règne autour de cette piscine? Je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question. En fait, c'est bizarre parce qu'il est entouré de plein d'autres malades, donc il n'est pas seul, mais c'est quand même vraiment moi d'abord. C'est vraiment l'égoïsme. Parce que tous ceux qui sont là, ben, il n'y a personne, ceux qui sont guéris, qui restent pour l'aider. Une fois qu'ils sont guéris, les gens, ils partent. Et puis tous les autres malades, ben, ils disent, ben, j'espère que le prochain, c'est moi qui vais être guéri. Ben, ses compagnons de souffrance, ils sont là, mais finalement, je trouve que c'est dur de voir que c'est un peu, chacun est centré sur son besoin. Puis je me suis demandé, est-ce que nous, des fois, on n'est pas un peu comme ça? Parce que des fois, surtout quand on est malade, qu'on souffre, ben, c'est vrai que c'est plus difficile de voir qu'il y en a d'autres aussi autour de nous. Et puis, ben, dans ces moments-là, c'est vrai, on dit, Seigneur, au secours, s'il te plaît, viens me rejoindre, viens me guérir. Mais un jour, ça a changé. Un jour, il y a un inconnu, il passe devant lui, il ne sait même pas qui c'est. Il s'arrête. Il s'approche de lui, puis il lui pose une question presque un peu absurde. Hein, moi, je dis quand même, veux-tu être guéri? Franchement, enfin, je ne sais pas quoi. Il est là, il est malade, il est grabataire, il est couché. Il est là parce que justement, il sait que c'est un petit peu la seule chance peut-être d'être guéri quand l'eau bouge. Il lui dit, veux-tu être guéri? Mais Dieu, il voit son cœur, il voit qu'il y a peut-être une once vacillante d'espérance puisqu'il reste dans cet endroit. Et peut-être qu'en posant cette question, Jésus il vient aussi réactiver la foi de cet homme en lui disant, mais est-ce que tu désires toujours cette guérison? Est-ce que tu as toujours ce besoin? Et là, le paralysé commence à donner une explication. Oui, tu comprends, quand moi j'y vais, il n'y a personne qui est là et avant que j'arrive, il y a quelqu'un qui est déjà arrivé dans l'eau. Quelque part, il avoue son impuissance et en même temps, justement, ce reste d'espérance. Et pour lui, c'est vrai, il semble que la seule façon dont il peut être guéri, ben, c'est en allant dans la piscine. Et puis, alors, je me suis dit, mais est-ce qu'il est un peu comme Naaman, comme peut-être aussi cette femme là, qui était à Lourdes? Voilà, des fois, on croit dans nos têtes qu'il y a un certain protocole pour être guéri. Peut-être à la piscine, peut-être il faut faire ci, il faut aller voir quelqu'un qui prie pour moi, aller à une conférence de guérison, peut-être jeûner. Puis Dieu, il nous montre que ben, des fois, il a d'autres manières de nous rejoindre. Alors, qu'est-ce que fait Jésus? C'est tellement simple. Déjà, il y a 2 semaines, je vous disais, Jésus, c'est tellement simple. Il donne 3 ordres. Il lui parle avec autorité. Il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et à l'instant même, quand même, ça, c'est aussi tellement extraordinaire, se dit, mais comment, s'il n'a pas eu de muscles? Enfin, je ne sais pas, les médecins, ils pourraient dire, mais s'il n'a pas eu les os à leur place pendant toutes ces années, comment un homme qui est couché pendant si longtemps, qui n'a plus de musculature, il peut se lever d'un coup? Et Dieu, cet homme, il se lève et il prend son lit et il marche. Alors, quelque part, je me dis, ben, il a reçu quand même cette parole de foi. Il reçoit cette parole et il obéit. Il y a quelque chose qui se passe en lui. Il n'argumente pas. Il tente pas de trouver une excuse. Non, il le fait. Et il doit quand même sentir, je me suis dit, quelque chose dans son corps, qui est une chaleur ou quelque chose qui se passe, pour qu'au moment où il commence à se lever, ben, il sente qu'il a la capacité tout d'un coup qui arrive. La vie revient. Les muscles poussent en quelques secondes. Il se lève, il marche. Et toute sa vie change et est transformée. Jésus, il ne s'est même pas présenté. Cet homme, il a été guéri, il ne sait même pas par qui. C'est quand même étrange. Il semble qu'il a disparu comme ça dans la foule. Il a reçu une guérison. Mais en même temps, l'homme, il comprend que ça vient de Dieu, parce que quelques instants plus tard, on le retrouve au temple. Il est là pour louer, pour remercier Dieu. Mais c'est vrai, je me suis dit, mais pourquoi il a obéi à cet anonyme? Pourquoi, si quelqu'un vient vers toi et dit « lève-toi, marche », est-ce que forcément tu vas faire ce qu'il te demande? Si tu ne le connais pas, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait avant. Bon, en même temps, je peux imaginer que quand on est devant Jésus, même si on ne sait pas que c'est Jésus, il y a quand même quelque chose qui se dégage de lui, de son autorité, cette parole de foi. Et je pense qu'il a dû sentir que quelque chose se passait, puis qu'il avait un rendez-vous divin ce jour-là. Quand Jésus s'arrête devant nous, peut-être qu'on ne le reconnaît pas, mais je pense qu'il y a aussi une partie de nous qui dit « Ah, je crois que là, je sens que Dieu est en train d'agir dans mon cœur et dans ma vie. » 38 ans de souffrance. Moi, j'aimerais qu'on s'arrête juste un instant. Je ne sais pas ce que ça vous évoque. 38 ans de maladie, 38 ans couché. Je me suis dit, mais comment ils faisaient? Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas tous les soins qu'on a maintenant. Il semble que quand même, si on reste couché longtemps sur le même côté, on peut développer des escarres, on a plein de soucis. Comment il a fait pour vivre si longtemps, pour supporter, je pense, la pauvreté, le rejet, la misère? Est-ce qu'il a prié? Comment il avait cette relation avec Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 38 ans? Le texte, c'est tellement court, c'est tellement condensé, on sait juste qu'il était malade pendant longtemps. Et nous, on aimerait, c'est vrai tous, hein, ne pas souffrir si longtemps et que Dieu nous guérisse. Des fois, je me dis, pourquoi Jésus n'est pas venu plus tôt? Mais on ne sait pas. Mais ce jour-là, il est venu, il y a tout qu'à changer. Et quand il le rencontre, il va au temple. Et je me suis dit, mais même les autres autour de lui, ils ont quand même dû voir que tout d'un coup, il se levait, il portait son truc là, il portait son lit, Et il n'y a personne qui a eu le temps de suivre Jésus, puis de dire, moi aussi, s'il te plaît, tu voudrais bien prier pour moi? Enfin, je sais pas quoi. Moi, je trouve ça en même temps étrange. C'est une des rares fois dans l'évangile où Jésus, justement, il guérit pas tout le monde, mais il passe à côté et il va plus loin. Quelque part, c'est vrai, on pourrait se dire, bah, c'est quand même injuste, quoi. Enfin, je sais pas si vous étiez le boiteux à côté, l'aveugle. Bon, l'aveugle, vous l'auriez pas vu. Mais voilà. Si c'était un autre malade, c'est quand même terrible de se dire, mais voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un miracle, c'est même pas comme d'habitude dans l'eau. Mais pourquoi pas moi, quoi? Alors pourquoi? Je me suis dit, bon, peut-être Jésus savait que c'était celui qui était là depuis le plus longtemps. Nous, après, on essaye de rationaliser. Il savait que c'était celui qui avait presque le moins de chances d'aller jusque dans l'eau. Moi, je sais pas, hein. Franchement, si c'était moi, je crois que je serais quand même très jalouse, hein. Quoi, Jésus, il est là, il guérit un, pas moi. Après, je me dis, pourquoi Jésus vient pas vers moi? Donc ça l'autre risque, c'est de tomber dans la passivité, c'est de se dire, ben voilà, il aurait pu aussi venir vers moi. Mais je crois que la meilleure manière de recevoir la guérison, il y en a plein différentes, mais la meilleure manière, c'est de se tourner vers Jésus et de se demander soi-même, comme on l'a chanté tout à l'heure, d'être dans ce cœur à cœur et de se tourner vers Dieu et de se dire, mais Seigneur Jésus, moi j'ai besoin, comme il a dit ce matin, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'une guérison, j'ai besoin d'être visité, ou j'ai besoin que tu visites mon frère, ma sœur, mon papa, mon ami. Alors, quelque part, que retenir de cette guérison? Comment il a fait Jésus? Jésus, il a utilisé une parole d'autorité, une parole de vie qui a relevé cet homme et qui l'a remis en marche. Alors c'est vrai que parfois on peut être appelé à prier pour les malades, à imposer les mains, mais parfois Dieu aussi nous appelle à donner une parole de foi, une parole d'autorité. Et on le voit comme on l'a vu ce matin aussi déjà dans Luc, à l'époque Jésus il a aussi réuni les 12 disciples, il leur a dit « Je vous donne la puissance et l'autorité de chasser tous les démons et de guérir les maladies ». Et un peu plus loin, dans Luc 10, cette fois-ci, c'était les 72 disciples qui s'envoyaient. Ils reviennent pleins de joie après avoir été envoyés. Ils disent, Seigneur, même les démons nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Jésus leur répondit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Écoutez, leur dit Jésus, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser ou même de vaincre toute la puissance. On peut traduire le pouvoir de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous obéissent. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Jésus, il a donné cette autorité aux disciples de pouvoir prier en son nom, de pouvoir chasser les esprits, de pouvoir guérir les malades. Alors c'est vrai, je me suis posé mais la question, mais est-ce que nous, on a reçu cette autorité? Est-ce que vous avez reçu cette autorité? Je vous laisse répondre. Pas tous à la fois. Oui. Oui, c'est vrai, on a tous reçu cette autorité, mais peut-être qu'on ne se rend pas tous compte qu'on l'a reçue. Ce n'est pas forcément un jour comme ça, mais on peut la demander, mais surtout on peut réaliser que Jésus, à chacun d'entre nous, il donne cette autorité de pouvoir prier en son nom. Et puis on le voit aussi, c'est vrai, que dans les actes, comment les premiers disciples ils l'ont utilisé? Par exemple, dans Acte 3, Pierre il passe avec Jean, il va au temple, et là il y a un boiteux, et il fait l'aumône. Et Pierre lui répond, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et à ce moment-là, cet homme, justement, il se met aussi lui à marcher. Plus loin aussi, à la fin des Actes avec Paul, vous vous rappelez, il a été arrêté, il a été mis en prison, il est resté 2 ans en Israël à Césarée. Et puis à un moment donné, ils veulent les Juifs le ramener à Jérusalem, mais en fait c'est parce qu'ils veulent entre-temps essayer de l'attraper pour le faire mourir. Et tout ça s'est déjoué, et il en appelle à l'empereur à pouvoir aller être présenté à Rome. Et pendant son voyage, qu'il est sur un bateau, en fait avec tous les gens qui sont dans le bateau, ils échouent, en fait ils font naufrage. Il avait reçu dans la prière que Dieu allait sauver tout l'équipage, mais ils allaient échouer, ils échouent sur l'île de Malte. Et là il sort, il fait froid, il commence à pleuvoir, il se dit bon on va commencer, voilà, les naufragés à faire un feu. Il va chercher du bois, et quand il va chercher du bois, à ce moment-là, en fait, il y a une vipère qui s'accroche à la main de Paul. Mais Paul, lui, il secoue le serpent, hop, et le jette dans le feu et il ressent aucun mal. Puis il y a tous les gens qui le regardent. Puis ils disent, c'est pas possible, ça, il doit être maudit, ça doit être vraiment un méchant celui-là. Il va mourir et ils attendent que tout d'un coup sa main elle enfle ou qu'il tombe mort subitement. Mais après avoir attendu très longtemps, il constate qu'il ne lui arrive aucun mal. Alors là, les habitants de l'île, ils changent totalement. En fait, ils disent « Ah ben alors, ça doit être un dieu. » C'est pas mieux, hein. C'est bizarre. Mais comme on a vu juste avant, Jésus nous a donné cette autorité. Et on voit que Paul, finalement, ben, sans rien dire, mais il a prié certainement intérieurement. Il a dit « Au nom de Jésus, je refuse tout venin ou toute chose qui pourrait m'arriver quand il a été mordu par ce serpent. » Et lui, sereinement, ben, il a continué à ramasser le bois et il a pu ben, se réchauffer. Un peu plus tard, il rencontre le père d'un des notables de l'île, qui s'appelle Publius, le principal, et son père, il était au lit, il souffrait de fièvre et de dysenterie. Et là, Paul, il va le voir, il prie pour lui, il impose les mains, et cet homme, il est guéri. Et suite à cela, ben, évidemment, tous les malades dans l'île, ils commencent à arriver vers Paul. Alors, Paul, c'est marqué que justement, les autres personnes de l'île qui étaient malades vinrent aussi et elles furent guéries. On voit que cette autorité, déjà les premiers disciples, Paul aussi, l'apôtre, il l'a utilisée, mais nous-mêmes aussi, on peut utiliser cette autorité. Dans Jacques, il est dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites parfois, de prendre autorité, sur peut-être déjà sur vous-même, sur votre âme, et de résister à l'ennemi. Mais une des clés, c'est vrai, qu'on voit dans Jacques, c'est d'abord se soumettre à Dieu. Parce que ce n'est pas un truc magique d'utiliser le nom de Dieu. C'est vraiment pour faire la volonté de Dieu, pour faire ce que Dieu nous a appelé à faire, c'est-à-dire guérir les malades. Dans l'Ancien Testament, on peut voir aussi dans les psaumes plusieurs textes qui nous disent par exemple « Mon âme, bénis l'Éternel ». On peut parler à son âme et l'encourager. « Lève-toi, mon âme. Allez, va louer Dieu. Lève-toi, va lire la Bible. » Ou « Réveille-toi, mon âme. » Et puis continue à intercéder pour telle ou telle personne. Moi, ça m'arrive de dire « Mais au nom de Jésus, ben, je refuse toute pensée d'inquiétude. » Parce que Dieu, il a dit « Mais ça ne sert à rien de s'inquiéter. » Puis c'est vrai qu'on le fait quand même. Mais c'est aussi important de pouvoir prendre autorité. Ou « Au nom de Jésus, je chasse toute pensée de crainte. » Ça, c'est mon combat souvent. Et bien d'apprendre à dire, ben non Seigneur, je vois bien qu'il y a la crainte. Mon fils, l'autre jour, il est rentré, il était passé 7h, 7h30, c'était presque 8h le soir. Je te disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est pas normal, il n'est pas censé rentrer si tard. Seigneur, je reste confiante. Finalement, il est rentré tout tranquille, lui. Hein. Il avait été au McDo avec des copains, il était boire un verre, c'était là, bon. Mais c'est quand même pas comme ça que ça doit se passer. Mais des fois, entre-temps, ce qui se passe en nous, c'est pas toujours facile. Donc on doit aussi apprendre. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le pasteur Jean-Claude Chablot, il a écrit un livre pour aider les malades et ceux qui prient avec eux. Il a dit « Dieu nous invite non seulement à lui parler à Dieu de nos problèmes ou nos maladies, d'avoir ce tête-à-tête qu'on serait invité aussi à vivre pendant le temps de Sainte-Cène, mais parfois aussi à parler à nos problèmes afin de manifester son autorité en eux. » Donc on a le droit aussi de parler à notre corps, de parler à nos muscles, « Détends-toi au nom de Jésus. » Puis d'apprendre aussi à, voilà, à compter sur Dieu. Puis ben voilà, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, mais on continue à obéir. Et puis je crois que Dieu, moi en tout cas, cette nuit, je peux témoigner, j'étais assez tendue pour différentes raisons. Et puis vraiment, mais j'ai une nuit mais tellement bonne, tellement bien, vraiment dans la paix de Dieu. Et je dis, mais merci Seigneur. Je me suis dit, je vais mettre en pratique ce que je prêche. Et j'ai vraiment vu que Dieu, il est là aussi avec nous. J'avais encore juste envie de parler d'un point. En même temps, il y a des gens, je ne sais pas si vous reconnaissez ces personnes, ben, comme ce malade de pendant 38 ans, comme cette sœur catholique, eh ben, cette femme... Jenny Erickson, j'étais étonnée, j'étais voir sur internet, elle est toujours vivante, à 72 ans par là. À 17 ans, elle a fait un plongeon et en fait, ben, elle est restée tétraplégique, quadraplégique. Et voilà. Et l'autre, Nick Vulswitch, j'arriverai bien à dire son nom, et ben, il est né sans bras et sans jambes. Et lui, il dit, mais si vous ne recevez pas un miracle, soyez, devenez un miracle. Et ces deux personnes, évidemment, hein, ils ont passé par des temps de dépression, par des temps où ils avaient des idées suicidaires, par des temps difficiles où ils se demandaient pourquoi ils étaient là, qu'est-ce que Dieu il a fait d'eux, pourquoi ils sont comme ça. Malgré tout, ils ont découvert que Dieu peut les utiliser. Dieu peut les utiliser pour encourager les gens, pour apprendre à se relever, à persévérer, à aller de l'avant. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur ces gens, mais voilà, là, en plus, on voit, il a eu 4 enfants. Donc, c'est extraordinaire, il s'est marié, il a eu des enfants. Et avec eux, ben, on peut aussi apprendre que parfois, ben oui, la maladie, elle reste. Parfois, quand on a ouais, certaines choses dans notre corps, ben, il n'y a pas tout qui part. Certaines personnes qui ont le diabète, ben, tous les jours, ils doivent, hein, elles savent ce que c'est que de devoir aussi se tester. Pardon. Et parfois, il faut aussi, c'est vrai, être... Je trouve de trouver ce chemin très délicat entre espérer toujours la guérison et en même temps peut-être accepter que peut-être ça va rester certaines choses dans nos vies jusqu'à ce que ben, Dieu il nous reprenne, jusqu'à ce qu'on meure. Mais c'est vrai que c'est tout un combat et ce n'est pas quelque chose qu'on fait en 5 minutes. Et en même temps, si on arrive à s'accrocher à Dieu, si on arrive à rester focalisé sur lui, ben lui, il nous soutient. Dans notre église, à la Fraternelle, moi j'ai réfléchi en préparant cette prédication, il y a tellement de gens, c'est vrai, quand on y pense, qui sont aussi malades, qui ont des défis, qui ont un handicap, qui viennent de vivre un deuil, qui sont veuves, qui vivent seules. Voilà, moi je ne connais pas toutes vos vies, mais je crois que ben, presque dans toutes nos familles, ben, il y a quand même des défis, quoi, que ce soit la souffrance, la maladie. Et je me dis, on a vraiment aussi cette responsabilité de continuer à prier les uns pour les autres, de nous soutenir, d'apprendre à utiliser cette autorité que Dieu nous a donnée. Et aussi, ben, c'est vrai, de pouvoir aussi, quand les gens ne peuvent même plus venir à la FRAT, ben, visiter les malades et continuer à tenir sur le long terme. Il y a des gens, voilà, on sait que ça ne sera pas évident, le combat, ça sera long. Alors j'aimerais juste finir en priant. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que c'est vrai, tu es un Dieu qui guérit, mais on sait aussi, on voit aussi dans nos vies autour de nous que parfois ça dure. Et on veut continuer, Seigneur, d'apprendre de toi. Et oser, Seigneur, prier avec ton autorité, l'autorité du nom de Jésus. Parce que c'est vrai que toi, tu l'as acquis à la croix. Seigneur, tu as tout donné pour nous à la croix. Et on veut vraiment, Seigneur, s'attendre à toi et rester, Seigneur, dans ce choix et ce chemin d'obéissance, de confiance et de foi. Seigneur, merci de pouvoir nous visiter. Je prie, Seigneur, toi qui es Jéhovah Rapha, que tu nous visites ce matin pendant ce temps de Sainte-Seine et que tu viennes guérir nos corps, nos âmes, nos relations. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci de visiter ceux qui sont chez eux, ceux qui sont malades, ceux qui souffrent et ceux qui sont dans le deuil.